Chapitre 4. Le jour, loin du regard inquiet de sa mère, la nuit, derrière les rideaux de son lit, Marcel pleura. Les larmes rougirent ses yeux. Frappé dans son amour, sur lequel elle avait placé son bonheur et déjà escompté tant de joie, elle ne chercha pas à retenir une seule de ses illusions qui s'envolaient loin d'elle. Elle n'écouta point si, à ses côtés, une voix amie ne lui crierait pas « Espoir !» Elle laissa la douleur tourmenter sa pauvre âme. Son imagination, si facile à tout exagérer, se peupla de sombres images. Devant et derrière elle, se dressèrent deux fantômes hideux, le passé et l'avenir. Le passé qui lui laissait un remords pour souvenir, l'avenir qui lui apparaissait en deuil, apportant des regrets et des douleurs. Un soir, quelque temps après le départ d'Henri Charel, Marcel s'était retiré dans sa chambre de bonne heure. Madame Morizet travaillait dans la pièce voisine en attendant son mari. Le messager arriva vers 9 heures. « La journée a été bonne aujourd'hui, » dit-il en accrochant son feutre à un clou. « Tiens, ma femme, regarde !» Et il éparpilla sur la table 2 ou 3 poignées de monnaie blanche qu'il se mit à compter aussitôt. « 40 francs, » reprit-il d'un ton de joyeuse humeur, « voilà ma journée, sans compter une belle robe neuve pour la mignonne et un fichu pour toi. « Maintenant, » ajouta-t-il, « j'ai une nouvelle à t'apprendre. Jules Thierry est arrivé et je l'ai amené de la ville. » Marcel, sans écouter, entendait les paroles de son père. Au nom de Jules, le sang monta subitement à sa tête, ses oreilles tintèrent. Il lui sembla qu'elle allait étouffer. Elle porta sa main à son front et le pressa fortement. Sa tête s'alourdissait de plus en plus, elle sentait sa raison l'abandonner. Le visage de Jules lui apparaissait, sombre et désolé, laissant lire un reproche dans son regard et le mépris dans la contraction de ses lèvres. Elle eut peur. Elle crut entendre la voix du jeune homme qui lui criait « Je revenais heureux près de vous, car vous m'aviez promis de garder mon souvenir. Mais vous avez oublié l'absent, vous avez laissé mourir notre rosier et flétrir notre honneur. Je vous aime encore, Marcel, je vous aime et je vous maudis. » Alors la jeune fille épouvantée ferma les yeux et tendit les bras comme pour repousser la menaçante apparition et s'élança hors de sa chambre afin de ne plus entendre les plaintes qui se soulevaient autour d'elle. Elle descendit et se promena un instant sous les arbres en proie à une agitation fébrile. Tout à coup, elle s'arrêta devant la porte du jardin, l'ouvrit et courut sans s'arrêter jusqu'au bord de la Varvenne. Une horrible pensée venait d'éclore dans son cerveau. L'eau, resserrée dans son lit, coulait rapidement mais sans bruit. Les rayons de la lune en se jouant sur les flots, tranquilles en apparence, faisaient jaillir des milliers d'étincelles multicolores et des gerbes de fils d'argent. Marcel regarda autour d'elle avec effroi. Peut-être craignait-elle d'être observée. Mais elle était bien seule. Un souffle tiède et parfumé faisait frémir, au-dessus de sa tête, le feuillage des saules. Le regard de Marcel se fixa sur un seul point de la rivière. Elle fit un pas en avant. Elle sentit le vertige s'emparer d'elle. Encore un pas, et la malheureuse enfant va disparaître, et les eaux étonnées rouleront son cadavre. En ce moment, l'horloge de l'église sonna. Marcel hésitait. Immobile, palpitante et la sueur au front, elle compta 10 heures. Elle étendit ses bras devant elle, mais au lieu d'avancer, elle recula en frissonnant. Le son de la cloche, qui, le dimanche, l'appelait à la prière, le son de la cloche venait de lui parler de Dieu. Elle s'élança d'un pas rapide dans la direction de la petite église et vint tomber à genoux devant le portail. Les mains jointes et le front courbé, elle pria en pleurant. Quand elle se releva, elle pleurait encore, mais elle était résignée à vivre. Elle reprit lentement le chemin de la maison de son père. Ainsi que M. Morizet l'avait annoncé, Jules Thierry était revenu à Doncourt. Mais le retour du jeune soldat n'y ramenait pas la joie. Le front de Jules était soucieux et son regard profondément attristé. Il embrassa ses parents et alla s'asseoir silencieusement près de la cheminée. Le père et la mère se regardèrent avec une douloureuse surprise. Chacun semblait demander à l'autre ce qu'il devait dire ou faire. Jules, la tête inclinée sur sa poitrine, les bras pendants et le regard fixe, avait oublié que deux êtres, qui le chérissaient uniquement, l'observaient et souffraient de le voir presque insensible à leurs caresses. Après un instant de ce cruel silence, la mère s'approcha de son fils et lui prit affectueusement la main. Le jeune homme releva la tête, puis, attirant sa mère à lui, il l'embrassa à plusieurs reprises. « Vous vous étonnez de ma conduite, vous me trouvez bizarre, n'est-ce pas ma mère? Peut-être avez-vous pensé que je vous aimais moins qu'autrefois. Oh, ne le croyez pas, vous êtes toujours, vous et mon père, ce que j'ai de plus cher au monde. » « Nous le savons, mon ami. Cependant, nous ne comprenons pas que tu ne trouves rien à nous dire. »« Que puis-je vous dire, bonne mère? Me retrouver près de vous est tout ce que je puis désirer. »« Tu as bien quelques questions à nous adresser ?»« Non, aucune. » »« Je croyais pourtant que tu m'aurais demandé des nouvelles de Marcel, » reprit la mère en souriant. « Marcel, c'est vrai, ma mère. Elle se porte bien ?» « Oui, très bien, et je suis sûre qu'elle t'attend ce soir. »« Je crois que vous vous trompez, ma mère. »« Monsieur Morizet a dû lui dire que tu étais arrivée. Ne veux-tu pas venir embrasser Marcel et sa mère? Elles ne se seront pas couchées, pensant que tu viendrais leur faire une visite. »« Je n'ai rien à vous refuser, et, puisque vous paraissez le désirer, allons chez Monsieur Morizet. Je serai heureux de souhaiter le bonsoir et d'embrasser... » « Marcel ? » interrompit Madame Thierry. « Non, sa mère, » fit Jules d'un ton sec. Et pour ne pas répondre à une nouvelle question, il se leva en disant « Partons !» Marcel venait de rentrer dans sa chambre lorsque la famille Thierry arriva. Jules fut reçu à bras ouverts par Madame Morizet. Pour tout le monde, Marcel excepté, le retour du jeune soldat était une vraie fête. « Allons, femme, dit le père Morizot, donne-nous des verres et deux bouteilles de vieux vin. Il nous faut recevoir dignement ce brave défenseur de la France, car tu leur en as fait boire de dur aux ennemis là-bas. Mes camarades et moi, nous avons fait notre devoir. » « Et joliment encore. Croiriez-vous, mère Thierry, que j'ai fait plus de 20 questions à votre fils sur la route et qu'il a daigné à peine me répondre ? Ma parole d'honneur, je crois qu'il avait plus envie de pleurer que de bavarder avec moi. Je ne m'en défends pas, et même, en ce moment, malgré le plaisir que j'éprouve en me revoyant ici, à Doncourt, près de mes parents, près de vous tous qui m'avez aimé enfant et qui m'aimez encore aujourd'hui, un affreux souvenir, la vue d'un homme, le cœur traversé par une épée, me poursuit sans cesse. S'agit-il d'un Russe que vous avez tué ? Demanda le messager. « Celui dont je parle était un Français. Un de vos camarades ? Un de mes camarades ? Oh non, un soldat n'est pas un lâche !» Comme il a dit cela, on le croirait en colère, reprit M. Morizet. « Cet homme était-il donc un lâche ? Demanda Mme Thierry. « Oui, un lâche, un misérable, qui devait recevoir son châtiment. Tenez, voulez-vous que je vous conte la chose ?» « Oui, oui, racontez !» s'écria le messager en se frottant les mains. « J'aime les récits de bataille, moi !» Alors, écoutez, le lendemain de l'entrée de l'armée de Crimée dans Paris, quelques officiers et sous-officiers d'un même régiment s'étaient réunis dans un café de la ville. J'étais du nombre des derniers. Il y avait là aussi, avec nous, deux ou trois jeunes gens, des Pékins, comme nous les appelons, amenés par des officiers leurs amis. Depuis une heure, les verres d'absinthe et d'eau-de-vie de champagne se succédaient sans intervalle et les têtes étaient fortement échauffées. Tout à coup, un des jeunes Parisiens, s'adressant à un officier, lui demanda s'il connaissait un soldat dont il lui dit le nom. Le militaire nommé faisait justement partie de la réunion. « Parbleu, répondit l'officier en souriant et en regardant ce soldat, je crois bien que je le connais. Et est-il revenu de Crimée ? L'officier, flairant une histoire réjouissante, voulut pour un instant s'amuser aux dépens de celui qu'il interrogeait. « Je suppose qu'il est encore à Sébastopol, » répondit-il. « En ce cas, je lui conseille d'y rester toujours. »« Bah, et pourquoi cela ?» demandèrent 10 voix. « Je vous prie de croire que le militaire dont on parlait et qui écoutait tout cela n'était pas sur un lit de rose. « Voici, répondit le jeune homme, après avoir vidé son sixième verre d'absinthe. Il y a quelque temps, je suis allé dans le village où est né ce soldat, village assez laid et où je n'aurais pu rester 8 jours, si deux yeux bleus, les plus ravissants qu'on puisse voir, n'avaient trouvé moyen de me désennuyer et même de me faire oublier Paris et mes amis. Je devins donc amoureux de la belle aux yeux bleus et je résolus de m'en faire aimer. Ce qui ne manqua pas d'arriver, dit un des officiers. La chose était assez difficile, reprit l'autre. Mes yeux bleus étaient fiancés aux soldats de Crimée, et quoique n'ayant pas à craindre qu'il vînt me couper la gorge, il me fallait le chasser du cœur de ma belle afin de m'y mettre à sa place. Savez-vous ce que j'imaginais ? Non. Je fis mourir le fiancé, c'est-à-dire que j'annonçai sa mort à mes yeux bleus. Lesquels ne te crurent pas ? Au contraire, messieurs, la petite nièce crut à mes paroles comme à l'évangile. Ah ! Et ensuite ? Ensuite, je fus aimé et... Vous devinez le reste. En achevant ces mots, il se mit à rire bruyamment. Un silence lugubre lui répondit. Tous les yeux s'étaient fixés sur le soldat à qui on avait volé sa fiancée. Il s'était levé, pâle comme un mort, le regard étincelant et frissonnant de la tête aux pieds. « Monsieur, vous êtes un infâme » s'écria-t-il en serrant la tête du séducteur entre la table et sa large main. « Je ne vous connais pas !» râla le misérable. « Qui êtes-vous »« Je suis le fiancé de celle que vous avez perdue. » En prononçant ces mots, Jules Thierry s'était levé et ses yeux lançaient des éclairs. « Et ils se sont battus ?» demanda le père Morizet. Le lendemain, reprit Jules d'une voix lente et grave, le séducteur tombait, mortellement frappé, au bois de Vincennes. « Bravo !» s'écria Morizet. « Voilà un brave soldat !»« C'est égal !» ajouta-t-il. « La petite aux yeux bleus n'était pas digne d'être aimée par un si brave garçon. Maintenant, Jules, à votre santé !» Après avoir bu, il reprit, s'adressant à sa femme, « Dis donc, si tu allais chercher Marcel, elle trinquerait avec nous. Sans doute qu'elle est couchée et qu'elle dort. Sans cela, elle serait déjà ici. »« C'est égal, va voir, » dit le messager. Madame Morizet passa dans la chambre de Marcel. Presque aussitôt, on l'entendit jeter un cri de douleur. Tous, excepté Jules, se précipitèrent dans la chambre voisine. Ils trouvèrent Madame Morizet qui relevait sa fille, évanouie au milieu de sa chambre.